Dr. Constantin Sigov, qui est docteur en philosophie, qui est directeur du Centre européen de recherche en sciences humaines de l'Université Pierre Mogila de Kiev. Je vais lui demander de vous décrire un petit peu plus cette université qui est assez unique de sa façon. Il est aussi directeur de la maison édition Doux et littéraire, ce qui veut dire esprit et lettres, qui a fait toute une série de publications ces 10 dernières années sur différentes questions du dialogue chrétien. Mais plutôt, je vais plutôt lui demander lui-même de nous décrire ses activités avant d'entrer à Imreye. Ok, merci beaucoup.
Merci. Michael. Bonjour, je vous remercie tous. Je remercie chaleureusement le père Bernard Potier, diacre Michael Lomax, de m'avoir invité à ce très intéressant colloque et de m'avoir fait venir de cette Europe lointaine, l'Ukraine, plus précisément de Kiev. J'ai pris l'avion, bon, 2h30 c'est pas beaucoup, mais en même temps on connaît toute la distance entre l'Europe occidentale et l'Europe dite de l'Est, l'autre Europe, comme disait prix Nobel Czesław Miłosz. Donc à Kiev, tout de suite après l'indépendance d'Ukraine en 91, l'université qui porte le nom de métropolite Pierre Mogila était refondée. Il était fermé par les bolcheviks dans les années 20 et bientôt on fêtera 400 ans de sa fondation au tout début du 17e siècle. D'ailleurs, aux sources même des systèmes universitaires mis en place par métropolite Pierre Mogila étaient évidemment au 17e siècle les écoles jésuites. Donc ça dit long sur notre gratitude historique par rapport à l'effort d'en traduire études supérieures dans les pays orthodoxes, ce qui a donné d'ailleurs énormément, pas seulement à Kiev, Ukraine, mais siècles plus tard, après l'Ukraine, les professeurs de notre université ont fondé l'université à Moscou et ensuite l'université, l'académie à Saint-Pétersbourg. Donc ça dit long sur la ténacité de cette tradition, et c'est bien de revenir aujourd'hui, au début du XXIe siècle, sur les retrouvailles, les rencontres, et je pense qu'il y a un côté symbolique à l'horizon, n'est-ce pas, de notre rencontre aujourd'hui. Je vous invite à l'indulgence à l'égard de mes efforts de m'exprimer en français. Je ne cache pas ma gratitude sincère à l'égard de votre langue, et la pensée française m'aide beaucoup depuis longtemps à pratiquer ce va-et-vient, n'est-ce pas, entre les cultures francophones et les cultures slaves, et d'enrichir ma démarche comparative entre nos sources intellectuelles, spirituelles respectives. Donc tout en venant de loin, de cette autre Europe, je développe modestement une tradition francophile et un esprit d'unité qui n'est pas morte hors des frontières formelles de la francophonie et de l'Union européenne stricto sensu, donc après la frontière de la Pologne. En ce qui concerne notre maison d'édition, qui porte le nom de l'Esprit et la Lettre, s'inspirant, n'est-ce pas, de Saint Paul, Duch et Litera, il existe un site web en deux langues, en ukrainien et en russe. Certains aspects sont aussi éclairés en anglais et en français. Cette année, notre maison d'édition fêtera 20 ans, donc aussi après l'indépendance d'Ukraine. Nous avons pu mettre en place des publications de choses qui auparavant circulaient en samizdat, des livres qui touchaient les aspects théologiques, philosophie chrétienne, histoire de l'Église, nous traduisons beaucoup, du français, anglais, allemand, italien et d'autres langues. Et comme je disais, pour cette année 2012, dans notre projet, j'ai eu la réunion la semaine dernière, nous avons 80 ouvrages à publier. Donc ça veut dire que nous avons une équipe très solide, une trentaine de personnes qui travaillent laborieusement pour traduire, pour avoir tous les contrats de copyright avec les différentes maisons d'édition en Europe et aux États-Unis. Et surtout dans un esprit vraiment pleinement de koinonia, pour le dire en grec, donc des communions permanentes. Nous organisons aussi des grandes conférences, rencontres d'Assomption chaque mois de septembre. Cette année, ce sera la 12e conférence auxquelles participent les frères de Cheftogne, les frères de Thésée, Bose et différentes universités européennes venant de Allemagne, Angleterre, Italie, France, Belgique, aux États-Unis, etc. Et puis, la dernière chose qui me tient beaucoup au cœur, déjà 10 ans, chaque été, nous organisons Summer University, l'université d'été qui aussi nous apporte beaucoup, surtout pour les jeunes, les étudiants qui se réunissent pour 2 semaines. Donc, si quelqu'un s'intéresse, allez pas seulement au Monatos, et il ne faut pas des visas. Et on accepte aussi des femmes. Donc, on peut passer pas seulement 4 jours, mais 2 semaines aux environs de Kiev, voir à la fois la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, visiter les grottes, enfin les grands monastères des grottes de Kiev, en fait le berceau de tout le monachisme à travers l'Ukraine, la Russie. Enfin, n'est-ce pas l'héritage de Saint Vladimir qui va jusqu'à outre-Atlantique aux États-Unis, vous connaissez, il y a Seminary, Saint Vladimir Seminary. Donc cet héritage de Saint Vladimir qui a marqué, n'est-ce pas, le millénaire du baptême de la Russie tout à fait à la fin de l'Union soviétique. Pour nous, c'est tout à fait mémorable ce moment en 88, lorsque, voilà, le rideau tombe, la censure tombe, le grand monastère des grottes qui était fermé s'ouvre. Et je n'oublierai jamais, j'étais un jeune thésard au 4e étage de l'Institut de philosophie, de l'académicien, j'ai vu une longue procession des cardinaux, des évêques, des Archbishop of Canterbury, et, qui sont venus à Kiev pour célébrer 1000 ans du baptême de Kiev. Sous la pluie, énorme pluie, enfin tous les tiars, cloboucs étaient mouillés sur la colline de Saint-Vladimir, et à la fin de cette procession, on a eu un rayon de soleil, c'était absolument magnifique. Et voilà, et ça nous a beaucoup marqué, notre génération qui est la mienne, et puis les générations suivantes, des étudiants auxquels nous voudrions transmettre ce témoignage, justement. Question qui sera au centre de mon exposé, notre expérience, et puis voilà, assurer la transmission. En fait, je voudrais mettre en exergue de mon exposé, vous voyez le titre exact, donc Société et témoignage au pluriel chrétien, dans l'expérience post-communiste. Première épigraphe vient de Urs von Balthasar, qui encourage et en même temps dit long sur la spécificité. Dans son article « De quel genre de témoins avons-nous besoin ?», il dit en substance cela. « Si l'existence du chrétien ne témoigne pas de la vérité du christianisme, à savoir que le Christ, à la fois Dieu et homme, est mort et ressuscité pour nos péchés, pour nous pécheurs, pardon, à quoi bon alors les homélies, le catéchisme et toutes les bibliothèques de théologie. » Balthasar, qui a rempli par ses bouquins les bibliothèques, savait bien de quoi elle parle. Il poursuit, « Le christianisme ne veut pas être vrai en soi, il veut l'être en nous, nous-mêmes, dans notre vie, notre foi, notre espérance et notre amour, dans nos souffrances et nos victoires. Nous devons être témoins, les témoins du Seigneur. Jésus a besoin des témoins pour l'Église, mais il en a besoin aussi pour lui-même. Et l'autre épigraphe qui vient d'un autre horizon, cette fois-ci d'un penseur orthodoxe qui était grand professeur aux États-Unis, à Yale University, Yaroslav Pelikan, qui était à un moment donné président de l'Académie aux États-Unis, qui risquait de devenir grand bibliothécaire des Library of Congress, et qui a publié en 5 volumes, traduite, je crois, en français, sûrement, en 5 volumes, La tradition chrétienne et 50 d'autres ouvrages. Son dernier ouvrage porte comme titre « À qui appartient la Bible ?» Le livre des livres à travers les âges, publié en français dans les maisons d'édition La Table Ronde. Et c'est très intéressant, ce grand professeur qui nous a quittés récemment, par ailleurs traducteur des œuvres complètes, rédacteur scientifique des traductions de Luther en anglais, en américain. Bizarrement, on disait que c'était un luthérien le plus grand connaisseur de l'orthodoxie. Après avoir passé à l'orthodoxie, on disait que c'était l'orthodoxe qui connaissait le mieux la tradition luthérienne. Donc il était rédacteur des œuvres complètes de Luther en américain. Et donc dans son ouvrage sur la Bible, dans sa préface, il dit d'où venait l'inspiration, la question, à qui appartient la Bible ? Il dit que sa tante Vanda, rescapée de l'Union soviétique, de USSR, aux États-Unis, arrivée aux années 30, donc en plein désastre au moment des goulags, Golodomor, famine artificielle en Ukraine, etc., arrivée aux États-Unis, tout de suite, elle posait la question de la Bible interdite complètement en Union soviétique. Et une fois arrivée dans le monde libre, Nouveau Monde, elle dévora avidement cette Bible et tout ce qu'elle pouvait trouver sur le sujet, avec une fraîcheur et une sincérité qui pouvaient être tour à tour désarmantes, dévastatrices, mais dont la naïveté apparente cachait parfois une sophistication extrême. Un jour, elle m'a demandé, dans un anglais fluide, quoique curieusement dépourvu d'articles, problème caractéristique des slavophones qui pose toujours des difficultés, avec un accent qui persistait, qu'elle eut toute la durée de son séjour outre-Atlantique, elle demande Yaroslav Pelikan, le grand savant, « Dis-moi, quoi tu penses des Bibles ?» Il dit « Cette question m'est pris de court, je ne me rappelais pas bien ma réponse, si tant qu'il y a eu une, mais aujourd'hui enfin, après maintes décennies, j'essaie de répondre à l'inoubliable question de ma chère tante Vanda. » Donc c'est une anecdote qui dit longue sur cette fraîcheur de la redécouverte de la Bible et de tout ce qui relève du message chrétien, de l'Évangile. Eh bien, ça nous introduit directement in medias res, dans notre contexte actuel, en Europe, de ces dernières années, on entend parler de plus en plus d'une société, d'une pensée post-séculaire qui advient. Je passe la bibliographie longue, entre autres, il y a en anglais Post-Secular Philosophy Between Philosophy and Theology, publié à Londres il y a 10 ans. Donc, cette concept de société post-séculaire nous invite à revoir autrement à la fois société en Occident et à l'Est de l'Europe, donc société post-communiste. Eh bien, il est possible que le nouveau vecteur de la discussion sur le christianisme post-constantinien est la prise des consciences d'un massif historique qui pour l'instant semble passer sous silence, à savoir l'athéisme d'après Staline. Donc, je crois que quelqu'un comme académicien Sergei Averintsev, on peut dire l'équivalent des Pélécans dans l'ex-Union soviétique, Il a souligné à maintes reprises qu'il est aussi important de bien comprendre le rôle qui joue l'expérience post-athée par rapport au développement d'une pensée post-séculaire. Eh bien, ici, dans votre honorable institution, je tiens à citer Henri de Lubac, avec son ouvrage « La drame de l'humanisme athée », qui d'ailleurs circulait en sa mesdate en bonne partie traduite et qui avait une résonance toute particulière dans l'Empire athée. Henri de Lubac, n'est-ce pas, est lié par nombreux fils avec le thème que nous allons traiter, mais je dois ici souligner aussi une différence certaine qui se présente sous l'aspect d'un double questionnement, à savoir qu'est-ce qui change le goulag sur le plan du caractère du drame, parce qu'une chose de partir d'athéisme de l'époque de Nietzsche, n'est-ce pas, avant la révolution d'octobre, avant d'arriver d'athéisme au pouvoir, dans le sens politique du terme, le sens juridique du terme, qui soit inscrit dans la Constitution, tout autre chose, notre débat actuel après le régime athée. Donc, et ce drame médité par Henri de Lubac. Et l'autre question, donc la rupture complète, radicale avec l'humanisme dans la pratique étatique de l'Union soviétique, donc des répressions, des purges, quoique la rhétorique officielle peut en dire, n'est-elle pas le tournant radical du drame athée? Donc c'est une question qui n'était pas analysée par Henri de Lubac, mais qui mérite d'être prise au sérieux, parce que ce drame n'est pas purement intellectuel, elle est aussi historico-politique. On ne peut pas se limiter à discuter avec Nietzsche aujourd'hui, ou avec Renan, avec d'autres grandes figures athéisme russe, comme Bakounine, etc., comme si le régime politique athée n'a pas existé historiquement au XXe siècle. Voilà, c'est la première proposition à discuter éventuellement. Donc il s'agit tout d'abord d'un phénomène historico-politique de l'Empire athée qui a eu un début, une fin. Donc il y a une historicité, n'est-ce pas, entre 1917 et 1991, nous avons une période, encore une fois, inscrit dans les lois politico-juridiques et politico-théologiques, si vous voulez, ou athéologiques. Je ne veux guère toucher ici le sujet qui ne peut être pris en compte dans cette brève communication, c'est-à-dire les formes des croyances athées qui subsistaient et subsistent encore chez nombreux hommes de notre planète depuis la disparition de l'Union soviétique. Un autre thème bien particulier peut refléter l'attention ou l'inattention des croyants, mais aussi des mécréants, des divers pays portés vis-à-vis de la fin de ce régime où l'athéisme était un pouvoir effectif. N'est-ce pas? Donc l'athéisme d'État en Union soviétique est progressivement devenu une forme unique de l'Empire athée dans l'histoire mondiale, dans l'histoire du christianisme depuis deux millénaires. Donc, dans les périodes, ce qu'on appelle post-constantinien, y divisant l'histoire générale de l'athéisme en périodes avant 1917 et d'après la chute du régime athée. Donc, jusqu'à la période de Perestroïka, Glasnost et la fin de l'Union soviétique. Le changement législatif et l'abolition du monopole constitutionnel athée à la propagande a été effectuée par la loi soviétique sur la liberté de la conscience et les organisations en Union soviétique. Et peut-être vous avez suivi ça dans les années 91. Donc ce qui m'intéresse ici maintenant, c'est à la fois ce côté historique, historicité, indéniable, et attesté d'ailleurs par, n'est-ce pas, bon nombre de témoins. Et là, j'aimerais bien citer, par exemple, le métropolite à Kiev, qui était l'un des plus grands et premiers martyrs, tué tout près du grand monastère des Grottes à Kiev en 1918, au mois de février. Là, il y a quelques jours, une très grande célébration liturgique commémorait cet événement. Et, n'est-ce pas, ces reliques sont toujours dans les monastères des Grottes à Kiev. Et par le concile, qui était en fonction en ce moment à Moscou, il était déclaré le premier témoin martyr, qui était ensuite suivi par toute une nuée, nuage des martyrs, qui est abattu à cause des persécutions qui, des années 20, des années 30, qui ont donné des milliers des évêques tués, prêtres tués, moines, etc. Mais ce que, je ne veux pas maintenant m'arrêter sur cet aspect, sur martyrologie. Je veux dire, au contraire, et c'est une des thèses de l'intervention, que malgré les rumeurs qui courent maintenant, que voilà, dans les situations actuelles politiques du régime de Poutine ou de Yanukovych en Ukraine, on tourne la page, cette expérience des martyrs n'est plus d'actualité, on passe un peu sous silence cet aspect-là qui divise, n'est-ce pas, les rapports entre l'Église et l'État. Donc, puisque des rapports entre l'État et l'Église, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de l'expérience de l'Empire athée, excusez-moi. Donc, cet empire-là, la mémoire, l'histoire, toutes les conséquences sociologiques, politiques, historiques, etc., sont en place et sont reflétées par les témoins. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, nous voyons juste le sommet de cet iceberg qui, pour le moment, encore à mettre en lumière, à étudier, à prendre en considération. Donc, encore une fois, le monopole de la propagande athée était établi, n'est-ce pas, dans la constitution de Brejnev, dès 1977, article 52, et elle-même se trouvait en filiation directe avec la constitution de Staline de 1936, où le rôle principal dans la société était donné au parti communiste renforcé par la doctrine marxiste-léniniste. Récemment, si quelqu'un parmi vous a visité Chine, on peut très bien voir que dans les grandes universités à Pékin, il y a toujours les grands chaires du marxisme, léninisme, maoïsme. Quoique, encore une fois, on voit, on peut percevoir les phénomènes, encore une fois, post-séculaires. Ce sont les phénomènes pas seulement en Belgique, à Bruxelles ou à Kiev, mais aussi en Chine. Parce que à l'université de Pékin, récemment, était mise en place au jardin grand statut de Confucius. Et les instituts culturels établis par Chine dans d'autres pays portent le nom de Confucius, comme Goethe-Institut de l'Allemagne. La France n'a pas encore trouvé le nom. On hésite entre Hugo et Camus. Mais Confucius est là, donc c'est ni Mao ni d'autres athées chinois, c'est grand penseur bien avant Marx et Lénine. Donc ce que je veux dire par là, que ce changement à la fois législatif et l'abolition du monopole constitutionnel athée de la propagande, c'était une vraie monopole, c'était complètement monopolisé à travers tous les médias, télévision, radio, etc. La fin de cette monopole, donc nous avons une date exacte, 1er octobre 1990, par les députés du peuple et publié 9 octobre de la même date dans le journal Pravda. Je vais revenir un peu plus tard brièvement sur ce journal-là et le mot Pravda qui dit long, mais nous avons une date exacte de la fin. Donc encore une fois, je ne parle pas des convictions personnelles, individuelles, individualistes, je parle du régime, puisque j'étais invité par les organisateurs du colloque d'aborder cette question du rapport de l'Église et société. Et donc, j'ai évoqué le début, donc après l'exécution du métropolite Vladimir. Et pour vous donner quelques statistiques, déjà vers 1922, selon la procédure juridique, on était exécuté 2691 membres du clergé blanc, clergé séculier, 1962 moines, 3447 moniales et novices, sans le passage au tribunal par mois des 15 000 personnes ont été exécutées et ont été liquidées plus de 700 monastères, déjà en 1922. Donc tous les discours sur le mauvais Staline et l'autre attitude de Lénine sont contredits par les chiffres. Et entre autres, le monastère de Solovki est devenu prison et le camp de concentration. Au moment clair de la campagne de confiscation des biens ecclésiastiques, sous prétexte d'une aide portée aux affamés, Lénine commandait aux membres du bureau politique dans cette lettre secrète, je le cite, un 19 mars 1922, toujours, il dit: plus nous pourrons par cette occasion éliminer les membres de la bourgeoisie et du clergé réactionnaire, mieux cela sera. Il faut en ce moment donner une leçon à ce public de la manière qu'il n'ait plus pour quelques décennies l'envie de se rebeller. Il donnait ainsi le ton et exigeait exécution du clergé et des croyants avec une, il dit, je sais la citation, une énergie la plus féroce, sans aucune pitié, sans arrêter devant n'importe quelle résistance. Fin de citation. Donc l'athéisme commençait ainsi à s'effrayer le chemin dans la conscience sociale à l'aide des grandes manifestations, par exemple le 30 janvier 1923, Trotsky et Lunacharsky ont participé à la tenue publique d'un tribunal politique qui a condamné à mort Dieu lui-même en personne. Tribunal avec une grande manifestation, Dieu condamné à mort. Encore une fois, vous percevez tout de suite la différence entre les discours de Nietzsche, ce fou allemand, Dieu est mort, etc., et tribunal politique organisé par Trotsky. Le contraste est épatant. Là, on est en pleine politique planétaire, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de l'humanité tout entière. Donc l'athéisme en tant que praxis, aujourd'hui on dirait l'athéisme en tant qu'installation, était une sorte de passage à l'acte depuis des discussions des théoriciens allemands, Feuerbach et autres, Marx, et russes, sur la mort de Dieu. Et le tribunal politique d'un État communiste prononçait la sentence non seulement contre les dieux des philosophes, avec Pascal, théologien, et de susciter un culte, mais aussi contre les théories abstraites des athées de l'Ancien Régime. Il mettait aux oubliettes les spéculations infructueuses des pros et contras, mettant une ligne dessous et marquant un tournant politique de la théologie. Voilà, c'est ça que... tournant politique et pratique de la théologie, donc la nouveauté radicale de la révolution du XXe siècle. Nouveauté aussi par rapport à la Révolution française, Révolution surtout britannique, américaine et autres. Suivant. Donc, en Union soviétique, durant de longues décennies, de la censure athée officielle s'exerçait systématiquement le tabou linguistique. Juste pour vous donner un exemple concret, comment ça fonctionnait si vous n'avez pas lu le journal Pravda de l'époque. Ce tabou de la lettre capitale dans un mot si important était une sorte de signal d'alarme de la dictature idéologique du parti régnant, indicateur de son idéocratie. Cette dictature sur le camp du politique s'exprimait à travers la Pravda. Il était soutenu par la volonté d'un contrôle des connaissances en matière d'orthographe athée. C'est-à-dire... bon, très clairement, suivant les consignes de ce tribunal de Trotsky, il fallait surtout pas écrire Dieu avec lettre majuscule. Clairement. Et si quelqu'un transgressait cette loi, c'était le traître, dissident, limogé, chassé, etc. La transgression de ce tabou était impossible durant des années staliniennes, autant dans la presse que dans les éditions scientifiques, à faible tirage. car il signifie l'arrêt de la carrière de la vie. C'est lui qui s'est montré ainsi politiquement incorrect. La correction de la censure servait ainsi en tant que manifestation littérale du politiquement correct. Les idéologies savaient pertinemment, les idéologues, qu'une seule lettre A distingue athéisme du théisme. Mais le geste le plus significatif était cette réduction de la lettre dans le mot que toutes les langues écrivent avec une lettre capitale. Même en français, après la Révolution française, je crois, réforme analogue n'était pas envisagée. Mais le geste le plus significatif, donc, était cette réduction. Sur cet exemple flagrant, s'est manifesté des principes directeurs du système idéocratique, ses propres alpha et oméga. Donc le régime dictait le texte qui, comme dans un jeu à foyer optique, illuminait les alternatives décisives sur orthographe radicale. Donc orthographe était vraiment un indice très clair des positions, des convictions de tel ou tel auteur et de conformisme. Donc il fallait se décider à écrire Dieu avec minuscule. Les frontières des athéocraties politiques étaient bien gardées par la douane, donc orthographique, le sentinelle d'un fondamentalisme communiste. Mais alors, comment les transgresseurs de ces frontières s'effrayaient un schéma? Mettez-vous en cette position, comment contourner cet interdit? Comment on ressuscité la mémoire d'une orthographe alternative? Les traces de cette orthographe étaient-elles visibles encore dans la sphère publique? La portée radicale, et là nous allons revenir encore sur la présence du discours religieux dans la scène publique. N'est-ce pas, à Bruxelles aussi, il y a toutes ces problématiques des efforts de refouler tout ça dans le privé. Parlez-vous en cuisine, au salon, mais surtout pas dans la sphère publique, dans les tribunes des instances européennes, etc. Donc, comment faire revenir cet geste, des fois, dans la sphère publique? La portée radicale de certains orthographes résidait dans l'attention portée à la sémantique d'un mot, logos. L'exemple clef de la transgression des frontières, de la censure, est devenu pour nous autres, jeunes, auteurs alternatifs, la place d'un mot défendu au système d'une sentence, là où on ne pouvait d'aucune manière commencer par une lettre minuscule. Donc ce qu'on faisait, par exemple, pour ne pas terminer la phrase...
Est-ce qu'on peut écrire ici? Donc, surtout pas écrire « mot Dieu » au milieu de la phrase, ou à la fin, pour ne pas écrire « Dieu ». On commençait la phrase et c'est le syntaxe, la grammaire en fait, qui permettait cette ruse. Mais encore une fois, ce n'est pas dans les archives. Quand en Angleterre, excusez-moi, on suggère de ne pas féliciter avec Noël, mais plutôt faire des season greetings, et dire, voilà, fête des saisons, au lieu de parler de Noël, de Christmas, c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas? Et si quelqu'un veut envoyer une carte à son chef en disant Merry Christmas, bon, c'est exactement la même chose, nous sommes dans la même galère. Donc, Dieu, en ce début de phrase, parlait de la transcendance, de cette même transcendance qui était tuée au milieu de la phrase. Le mot après le point devenu logos. Donc tout simplement, encore une fois, point et ensuite logos. L'alternative entre les phrases se soumettant aux règles très strictes de la syntaxe devenait ainsi une brèche dans le mur de la censure hantée. Une moniale intelligente disait: chez vous, en Union soviétique, il y a partout le mur, et dans chaque mur, il y a le trou. Donc, c'était le trou dans le mur athée. Et donc, les fissures dans les tissus des frontières, des censures, en ces points de liberté, préparaient ainsi l'abolition de toutes frontières.
Mais la mort du régime athée n'a pas apporté le triomphe sans condition de la foi et de la liberté. Après la disparition du système communiste, soviétique, en Europe de l'Est, les problèmes des fidèles croyants ont changé d'accent. Encore une fois, heureusement, l'Ukraine reste, au niveau de la pratique, un des pays les plus élevés, comme Irlande, la Pologne, d'autres pays que vous connaissez, en contraste très grand avec l'Allemagne de l'Est ou pays tchèque, ou, enfin, là, vous connaissez bien la statistique. Mais ce qu'il disait Sergei Averintsev, en substance, déjà après la fin de l'Union soviétique, voilà, il expliquait, il nous faut identifier le nouveau principal adversaire. L'athéisme fondé sur la science, ou plutôt sur une pseudo-science, a disparu, n'est-ce pas ? Pourtant, en soi, la chute de l'athéisme n'est pas pour les chrétiens une occasion de réjouissance. Il y a eu des époques plus naïves où la pensée des dieux, avec majuscule, chez les apostates du christianisme restait si énorme, si authentiquement puissante, que seule sa négation formelle, négative, donnait une possibilité de s'en débarrasser. Mais ces époques sont révolues. Le relativisme radical et le pragmatisme, allant de pair avec la pratique de la vie à la mode, créent une situation spirituelle spécifique dans laquelle la question de l'existence des dieux ne sert pas nier, mais est dépouillée de tout sérieux. Fin citation publiée dans la documentation catholique. C'est ça l'autre défi après athée et donc post-communiste, séculaire. Donc la destruction de la théocratie était accompagnée de la relativisation de l'ancien orthographe, du régime, d'idéologie. Quelqu'un, au moment que Gorbatchev a proclamé la perestroïka, posait les questions à un professeur d'Harvard, Roman Sperluk, comment vous pouvez interpréter le fait que le rôle principal du parti n'est plus dans la Constitution. Pour répondre aux journalistes américains, il a dit, écoutez, imaginez que le pape, un jour, parlant de Urbi et Orbi à la place Saint-Pierre, sort de son balcon et dit, le magistère est aboli. C'est exactement la même chose. Donc, le fait même que le parti n'a plus de prise sur tous les pouvoirs idéologiques, etc., ça changeait complètement, n'est-ce pas, la donne, pas seulement en Union soviétique, mais dans tout le bloc qui regroupait la Roumanie, honorable pays, la Pologne et d'autres pays qui relevaient jusqu'à Cuba, n'est-ce pas ? Et encore. Donc, Pour un aspect historique que je voudrais aussi souligner, que cette libération du joug idéologique, ça commençait bien avant, nous avons entendu en Roumanie avec le père Stanislav, ça commençait bien avant aussi à Moscou même. Donc l'autre aspect que je voudrais refléter, déjà en 1970, nous voyons que la pseudo-eschatologie soviétique, donc l'avenir radieux, n'est-ce pas, déclaré par Khrushchev et d'autres, il reste encore d'actualité, par exemple dans le journal Pravda et dans l'establishment politique, mais déjà, la notion des vérités officielles, donc le mot Pravda, n'apparaît pas dans la grande encyclopédie philosophique publiée en 5 volumes. Le mot est simplement absent du 5 volumes de ce grand encyclopédie disponible peut-être à Bruxelles et sûrement à Cheftogne. Donc, les gens comme Averintsev, au lieu de dire les mensonges sur la Pravda, tout simplement n'ont pas publié l'article. Il n'est pas dans l'ordre alphabétique. Je crois que ce geste-là montrait bien sur le trou, le trou dans les systèmes idéologiques. Eh bien, pour vous dire quelques mots sur cette encyclopédie donc, qui est parue au début des années 70, certain nombre des articles dissidents étaient publiés là-dedans, et le même Avi Rintsev que j'ai cité tout à l'heure publiait des articles complètement sortant du système. Donc je vous prie de montrer le suivant. Il publie les articles Sophia, Salut, Archipel, Destin, Théisme, Théodicée, Théologie, Théologie dialectique, Tertullien, vous voyez, Thomas d'Aquin, François d'Assise, Christianisme, enfin des grands noms, des Jaspers, Buber, Maxime le Confesseur. Eh bien, l'apparition de toutes ces thématiques dans le cinquième volume, c'était un scandale idéologique. Et on peut lire dans les pages suivantes, les communistes français étaient particulièrement choqués de l'attitude dangereuse de M. Avi Rintsev vis-à-vis du matériel théologique. C'était publié dans le journal principal communiste à Paris. Eh bien, la recension des jésuites de Munich, donc Père Peter Helen, fut vite traduite en anglais, de l'anglais en russe. Donc il a publié en anglais une recension en disant qu'il y a une révolution idéologique qui se passe parce que dans l'encyclopédie, il y a beaucoup de questions de théologie, la Pravda est absente. Il pensait, en bon jésuite et en bon sovietologue, que ça reflète peut-être les changements au Kremlin. Il ne soupçonnait pas que c'était un complot de quelques intellectuels qui voulaient contourner un peu la censure. Et c'était très intéressant ensuite, au moment des libérations, les retrouvailles des pères Peter et Helen, peut-être quelqu'un parmi vous pourra connaître ce jésuite de Munich, et Avi Rintsev, qui voulait lui expliquer que, au contraire, Kremlin n'était pas au courant, n'était pas avisé, c'était une très belle entreprise éditoriale et théologique et philosophique qui faisait des différences. Par exemple, la différence entre les façades officieuses des éditions soviétiques et les auteurs non officiels des articles en question était plus que connue des participants à cette conspiration philosophique. Mais loin d'être évident aux recenseurs en Allemagne, en France et peut-être en Belgique, les observateurs occidentaux ne pouvaient pas comprendre le contexte de la rédaction dans lequel, pour remplacer l'article Mao Zedong, qui était traître, qui était déclaré par le Kremlin traître, donc du jour au lendemain, rédacteur téléphonait à Rintsev qu'il faut remplacer Mao Zedong par Mann, Thomas Mann. Et donc, durant une nuit, Avi Rintsev rédigeait un article remarquable sur Thomas Mann qui remplaçait Mao Zedong. Encore un exemple très concret du passage vers la situation post-athée, post-séculière, post-soviétique. Bref, je passe d'autres exemples qui sont très nombreux. Pour vous dire que là, nous pouvons voir que les gens comme Avi Rintsev et ses collègues ne s'amusaient pas seulement changer ou provoquer les recensions du Kremlin ou des communistes français. Ils voulaient changer le vocabulaire de la pensée, l'horizon, ouvrir l'horizon. Et cette encyclopédie-là pesait et ça a complètement changé le contexte pour les étudiants, pour les professeurs, déjà des années 90. Donc, il est très important, j'ai marqué, n'est-ce pas, la fin du régime athée, juridiquement parlant, en 1990, donc fin de l'Union soviétique, mais sur le plan de la pensée, des idées, la mort de cette idéologie précédait à peu près un 20 années. Avi Rintsev, lui-même converti au christianisme et baptisé dans les années 70. Et d'autres, enfin je peux citer encore d'autres noms s'il y en a besoin. Donc, n'est-ce pas, déjà Orwell disait que Newspeak, nouvelle langue, c'est l'instrument principal du régime totalitaire dans son fameux roman 1984. Eh bien, changement du vocabulaire, changement des concepts, des notions de la langue, c'était principal. Et l'un des instruments qui reflète aujourd'hui ce changement, c'est un autre dictionnaire que nous sommes en train de traduire des français et en même temps enrichir en 5 volumes. Nous publions Vocabulaire de philosophie européenne avec ce titre Dictionnaire des intraduisibles. Donc chaque fois que vous mettez un mot entre parenthèses en signalant au lecteur que par exemple tel ou tel mot allemand, Geist, est-ce qu'on peut le traduire par esprit ? Ou en anglais mind, même chose pour rule of law en anglais, état des droits en français et en allemand, etc. Donc il y a énormément de notions, comme justement aussi Pravda, Mir, qui sont intraduisibles mot à mot, intraduisibles. Et donc là, ce vocabulaire fait un inventaire, met au centre d'attention des chercheurs des milliers de mots intraduisible, donc qui nous invite à revoir le contexte intellectuel, culturel, théologique, philosophique, pour comprendre l'autre, autre culture qui relève, n'est-ce pas, de tout le développement historique, culturel. Et juste pour vous donner un exemple, donc avec le mot Pravda, je signale tout simplement que tout d'abord ce mot signifie donc la justice, équité, et ensuite vérité, alors qu'il est traduit habituellement, j'imagine aussi dans les institutions européennes, par uniquement vérité, truth, Wahrheit, sans évoquer ce côté de la justice. Dans toutes les traductions des psaumes, systématiquement, en slavon aussi, dans langue liturgique, le mot pravda traduit dikaiosune et justitia. Donc, dès que vous trouvez dans Vulgate justitia, systématiquement, en slavon et en russe, ce sera pravda. Donc, j'attire votre attention pour que vous mesurez combien, qu'est-ce qui nous manque pour comprendre la portée de ce mot dans la culture, dans les cultures slaves et dans le slave, enfin, langage de l'Église, et pourquoi cette récupération par le journal Pravda, qui veut dire à la fois la justice, d'être tribunal, s'ériger en tribunal, et dire à la fois vérité et justice. Voilà, donc c'est un exemple qui peut éventuellement illustrer un peu ce changement. Et pourquoi ce mot n'était pas présent dans l'encyclopédie. Donc on ne pouvait pas dire « nepravda », donc « mensonge », le contraire des « pravda ». Donc au lieu de dire ça, on passait sous silence. Là. Eh bien, je crois que cette démarche philologique, et théologique, philosophique, reflète bien du mémoire des témoins de la « pravda », et ce sera mon aspect centrale qui nous conduit vers la fin de mon exposé, des témoins de la Pravda, donc des expériences des martyrs qui n'est pas oublié. Le dernier ouvrage qui vient de paraître il y a quelques semaines dans notre maison d'édition est consacré à cet auteur, Père Anatoly Jourakovsky, qui était tué en 1937, mais ses manuscrits donc réécrit à la main, était conservé par sa famille spirituelle, les sœurs, sa femme, et ses élèves spirituels. Et donc à partir de ce manuscrit-là, ce palimpseste était déchiffré et mis en valeur et publié. Donc voici la famille, donc les gens qui habitaient Kiev tout au long de l'Union soviétique, donnant par exemple les sons de la musique pour Richter. Ici, par exemple,
cette femme-là, c'est la tante des grands musiciens pianistes Richter, qui à la fois lui apprenait à jouer le piano et puis la culture générale.
Donc, c'est cet ouvrage de Jurakowski, mais il était précédé avant par l'ouvrage consacré au dernier recteur de l'Académie théologique de Kiev, donc Alexandre Glagolev, lui-même aussi tué en 1937, l'auteur de l'ouvrage « Buisson ardent ». Son fils était aussi devenu prêtre 4 années après la mort de son père, donc père était tué en 1937 à Kiev. Les Allemands envahissent Kiev en 1941. Et très vite, ils commencent à sauver des familles juives des Babi Yar. Et voilà la famille de Glagolev. Tous les membres des familles sont devenus les justes des nations, donc au Yad Vashem, à Jérusalem, parce qu'ils ont sauvé des centaines de familles de juifs. Et en fait, c'est cette femme-là,
Magdalena, donc la fille d'Alexis Glagolev, qui nous a donné des manuscrits. Elle habitait Kiev encore il y a 2 ans. Et son fils travaille dans notre maison d'édition L'Esprit et les Lettres. Donc voilà un exemple, une file ininterrompue qui veut contrarier un discours un peu ambiant sur la rupture de la tradition en Union soviétique, en Russie et en Ukraine. Donc cette famille-là, habitaient Kiev. Ils ont accueilli l'évangile dans leur famille au moment que leur église était détruite. Donc, n'est-ce pas, c'est essentiellement les familles qui ont retransmis cet héritage. Ensuite, à un certain moment donné, le père Alexei Glagolev participait dans la reconstruction des églises dans les années 70, et voici le diplôme, donc la photo et le diplôme de juste des nations donné à Jérusalem. Et c'est l'exemple même qui a été cité par le patriarche Alexis II lorsqu'il a parlé à New York dans le synagogue. Donc, dans ce fameux discours du patriarche au synagogue, il évoquait les Glagolev de Kiev qui sont très présents dans les cultures juives à l'heure actuelle. Il y a exactement 10 ans, en 2002, nous avons inauguré la première plaque en bronze contre mur de notre université. Donc si un jour vous voulez visiter notre université, en entrant dans le bâtiment, vous voyez cette plaque qui reflète donc le père et le fils, Alexandre et Alexis, deux grands témoins du Christ à Kiev. Donc c'est le moment d'inauguration de cette plaque. Béni par les prêtres et puis les jeunes. Nous avons parlé de la transmission des générations qui accompagnent ça, ainsi que les prêtres. Je ne peux pas passer en silence que c'est mon fils aîné et d'autres étudiants de notre université. Ensuite, regardez les visages, tout simplement les visages d'un autre prêtre Michel Yedlinski, qui était père spirituel de tous les prêtres de Kiev, lui-même aussi tué en 1937. Et puis, donc, sur, par exemple, lorsque les pèlerins venaient à Kronstadt, ils disaient « Mais pourquoi venez-vous me voir alors que vous, à Kiev, vous avez père Michel Yedlinski ?» Et là, si quelqu'un voudra savoir plus, il y a donc ce site web de cette maison d'édition, duchilitera.com, sur lequel il y a abondamment des matériaux, des publications, des photos, des textes. Et puis un autre site web qui relève du centre du pape Saint-Clément, martyr le premier, en Ukraine, donc clément.kiev. Donc nous souvenons bien que notre histoire n'a pas tout à fait commencé avec Vladimir il y a 1000 ans, mais ça relève encore de l'héritage de Saint Clément.
qui était, selon la tradition, martyr en Crimée, et donc Cyril et Méthode, les fameux frères que donc, nous venons hier faire les mémoires, on a porté les reliques du pape Saint-Clément à Rome. Pour conclure, je vais dire que parallèlement à toute cette publication qui porte sur les témoins qui nous ont permis et ouvert cette sortie, n'est-ce pas, de traversée de la mer Rouge soviétique, une des dernières publications relève de notre collaboration avec les catholiques en Ukraine, bien plantée. Donc il y a une communauté Point Cœur, fondée par un prêtre catholique Thierry de Russie, qui est présent en Ukraine depuis des années. Et l'un des derniers fruits, publié pour le Noël, je citais tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait Season Greetings, fête des saisons, c'est quand même, n'est-ce pas, la naissance de notre Seigneur. Donc nous avons publié en deux langues, en français et en ukrainien, cet ouvrage, illustré par un très bon peintre ukrainien. Et je voudrais juste citer une très belle phrase d'Abbé Rintsev dans le préface. Il dit que Noël, c'est la conclusion musicale plutôt, il dit Noël nous donne une musique semblable à triade. Cette triade qui couvre, anime et remplit la culture spirituelle de ces deux millénaires chrétiens. La première tonalité, le chant sacré et solennel des corps célestes, la joie surnaturelle, intemporelle, qui sonne au sommet le plus haut de la musique spirituelle. La seconde tonalité, la deuxième, une fête chaleureuse. Donc la première, c'est l'Église, n'est-ce pas ? L'Église en sa gloire. La seconde tonalité, c'est plutôt la société, donc une fête chaleureuse, intime, enfantine, dans un cercle familial, n'est-ce pas ? Depuis François d'Assise, nous connaissons toute cette tradition à travers l'Europe. Seul, dans le flot de la joie des Noëls, subsiste une protection particulière, une confiance et peut-être une vraie humanité. Encore une fois, chair pour les ressortissants rescapés du communisme. Mais ensuite, la troisième tonalité, elle est aussi indispensable, le ton inquiétant du danger, Hérode. La menace éternelle qui pèse sur les innocents, le ton de la douleur des mères de Bethléem. Alors, les pleurs, les sanglots se mêlent à la grande joie de Noël, à ce cri de Gloria. Et c'est toutes les trois tonalités qui font la fête. Pour conclure totalement, je veux citer juste un grand compositeur, toujours vivant, à Kiev, qui fait une musique ravissante et qui était appelé par Arvo Pärt, l'un des plus grands compositeurs de notre temps, récemment joué à Londres par Kronos Quartet. Je crois, peut-être par dans une pause de café, on pourra écouter un peu le violon et le piano représentés par... représentatif un peu pour cette compositeur-là. Et je veux dire que ces témoins sont là. Il est né en 1937, pardon, donc l'année dramatique, l'année des disparitions de tous les prêtres que j'ai montré en photo. Il est né en ce moment-là à Kiev, comme Abbé Rintsev naît à Moscou 1937, pour justement donner une réponse. C'est Hannah Arendt qui disait à la fin de l'ouvrage sur l'origine du totalitarisme, l'enfant est né. C'est la réponse à tous les régimes totalitaires du monde. Donc, en montrant une autre photo de Silvestrov et en précédant en quelque sorte sa musique, je veux conclure par la citation du même auteur dont j'ai commencé, Urs von Balthasar, qui disait, et la musique, c'est la musique qui nous apporte ce surplus, donc parle Balthasar. Il dit, dans le christianisme, il ne peut se réduire à son utilité sociale. Il reste toujours ce surplus qui, au grand agacement de notre époque de rationalisation, de rationnement, ne disparaît pas. plein d'humour d'ailleurs, cette relation entre ratio et ration. Là où la ratio, la raison calculante, domine tout, chacun devra bientôt se contenter de la ration qui lui aura été attribuée de manière rationnelle. Bureaucratie européenne sache bien comment attribuer une ration de manière rationnelle. Là où aujourd'hui la technique a le dernier mot, c'est le communisme qui aura le demain. Bon, Balthazar le disait pour son temps, le communisme ne va sûrement plus revenir, mais il y a d'autres difficultés graves qui peuvent suivre à la situation où la technique a le dernier mot. Mais aujourd'hui, la technique était très généreuse. Je vous remercie tous pour votre attention.